Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Le soleil a rendez-vous avec la lune. Ça ne va pas durer que quelques minutes et même quelques secondes par endroit. Une éclipse solaire totale sera visible depuis une partie de l'Amérique du Nord ce 8 avril. Pour observer ce spectacle céleste unique, il faudra être présent dans une large bande de terre allant de la côte pacifique mexicaine à l'île de Terre-Neuve au Canada. Les chanceux présents sur cette trajectoire pourront contempler un alignement parfait du soleil, de la lune et de la terre. La lune masquera totalement le soleil, alors que le diamètre de l'étoile est 400 fois supérieur à celui du satellite naturel de la Terre. Sur cette trajectoire, il fera comme nuit en plein jour et la température pourrait chuter de quelques degrés. Si les conditions météorologiques le permettent, 99% des personnes résidant aux États-Unis pourront voir l'éclipse. Tous les États américains contigus ainsi que certaines parties de l'Alaska et d'Hawaï connaîtront au moins une éclipse solaire partielle, affirme la NASA. En France, il faudra l'admirer depuis son canapé, nous assure France Info. Dans l'Hexagone, les astronomes en herbe n'auront pas les yeux rivés vers le ciel. Toutefois, elles auront la possibilité d'assister au spectacle avec une retransmission en direct de l'événement depuis la salle IMAX de la Cité de l'Espace à Toulouse. Faut-il se trouver à Toulouse ? Puis, les autres, il faudra se contenter du direct diffusé par l'agence spatiale américaine sur YouTube ou Twitch. Un spectacle qui ne se reproduira pas avant 20 ans, nous disent les experts. Pauvres de nous. À vos écrans.
L'info locale et régionale. C'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.
Je vous emmène sur les pas de Nicolas Philibert, invité du cinéma Les 400 coups à Villefranche-sur-Saône pour la sortie du dernier volet, vendredi dernier, La machine à écrire et autres sources de tracas, d'un triptyque de deux autres films, L'Adamant, prix Ours d'Or à la Berlinale 2023, et Averroès et Rosa Parks, un triptyque axé sur la psychiatrie. Nicolas Philibert, ou À la recherche d'une humanité commune, un cinéaste de films documentaires qui ne donne pas de réponse. C'est un regard, une écoute au monde, au-delà des préjugés et des différences. Un cinéaste de condition humaine, extrait du début de l'entretien avec celui-ci.
Nicolas Philibert, on vient de voir donc La machine à écrire
de et autres sources de tracas,
qui était donc le dernier volet d'un premier film donc, qui s'appelait L'Adamant, sur lequel vous avez été récompensé, Ours d'Or de la Berlinale 2023, et puis le second, Averroès et Rosa Parks. Voilà.
Oui.
Vous avez dit que vous consacrez ce triptyque à... Vous faites une proposition, en fait. J'aimerais que vous l'expliquiez.
Ce sont trois films qui sont distincts de par les lieux où j'ai tourné, de par ce qu'on y voit. Le premier, L'Adamant, sur L'Adamant, c'est un film qui se passe dans un centre de jour, sur la Seine, à Paris, sur un bâtiment flottant. Centre de jour en psychiatrie. Le second volet, c'est un film que j'ai tourné à l'hôpital Esquirol, l'hôpital psychiatrique Esquirol, dans deux unités, Averroès et Rosa Parks. Film qui est basé sur des entretiens entre des patients et des soignants. Et le troisième film, il est constitué de quelques visites à domicile que font des soignants de l'Adamant, bricoleurs, qui savent faire un peu d'électricité, de plomberie, monter des meubles, etc. Et qui se rendent chez des patients de temps à autre quand l'un d'eux se trouve tout d'un coup confronté à un problème domestique, quelque chose qui ne marche pas à la maison. Voilà. Alors dans le premier film, on voit des réunions, des ateliers, des patients qui me racontent des choses, etc. Et dans le deuxième, on entend aussi là... la parole des patients, parce que ils se confient, ils échangent avec des psychiatres qui s'occupent d'eux. Et dans le troisième, les trois films, si vous voulez, sont, je dirais, montrent trois aspects d'une psychiatrie qui essaye de résister à tout ce qui aujourd'hui, tout ce qui écrase la psychiatrie. Cet accueil de la parole, ce temps qu'on essaye de donner, de consacrer à écouter les patients, tout ça, c'est très attaqué aujourd'hui. C'est très la psychiatrie s'effondre. Mais il y a ici et là, c'est ce que je montre dans ces films, des gens qui essayent de résister quand même, qui essayent de rester à l'écoute, de rester imaginatif et inventif.
Comment en êtes-vous arrivé à avoir eu envie de parler de la santé mentale?
Moi, j'emploie plutôt le terme de psychiatrie plutôt que santé mentale, mais j'ai fait il y a en 95, donc il y a 28 ans, un premier film en psychiatrie à la clinique psychiatrique de Laborde dans Loir-et-Cher. Ça s'appelle La moindre des choses. Ce film, c'était pas mon idée, c'était une suggestion de gens qui travaillent en psychiatrie qui m'ont un peu poussé à aller là. Au début, je voulais pas, parce que l'idée de venir avec une caméra dans un lieu où les gens ont besoin d'être tranquilles, les gens sont en souffrance, cette idée de venir avec une caméra dans un endroit comme celui-là me déplaisait vraiment. Et les amis ont insisté tant et tant que j'ai fini par aller voir. Et là, ce sont les patients de Laborde en particulier, quelques soignants aussi, mais qui m'ont poussé à me confronter à mes scrupules, à mes peurs, pour essayer de les dépasser. Et j'ai bien fait, parce que je me suis rendu compte que les patients que je filmais avaient beau être soignés en psychiatrie, c'était des gens qui pouvaient parfaitement, du moins certains d'entre eux, accepter en pleine conscience la caméra pour certains, pour d'autres, capables d'un véritable échange. Bref, j'ai commencé à perdre un peu de mes peurs, de mes préjugés, des clichés que j'avais dans la tête. On a tous des clichés vis-à-vis de la psychiatrie. Souvent, les personnes qu'on y rencontre peuvent vous déranger, vous faire un peu peur, vous inquiéter un peu. Voilà, j'ai commencé à découvrir en psychiatrie des gens extrêmement, souvent très très attachants, hypersensibles, très attachants.
La machine à écrire et autres sources de tracas du réalisateur Nicolas Philibert, en sortie nationale le 17 avril prochain, est programmée au cinéma Les 400 coups. Un entretien complet du cinéaste prochainement sur Calade. Et on retrouve tout de suite la page sportive avec Eddy Bernard.
Et bonjour Eddy.
Bonjour Mathieu, j'espère que tu vas bien.
Eh ben ça va bien, et toi?
Parfait.
En forme. Alors avec toi, on va voir les résultats sportifs du week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je te propose qu'on commence par ce qui s'est passé sur les terrains en extérieur.
Mais oui, tout à fait. Et effectivement, ce week-end, précédent week-end 1er d'avril, hélas, a très mal démarré, puisque nos deux équipes de football du championnat national 1, qui luttent, hein, rappelons-le, pour leur survie en national 1, avaient deux matchs importants, évidemment. Et malheureusement, deux chutes une nouvelle fois cette semaine. Alors pour le football club Villefranche-Beaujolais, c'était un déplacement difficile, c'est vrai, à Martigues, troisième du classement avant la 28e journée. Et ils ont résisté, ils n'ont pas, hélas, été très inspirés une nouvelle fois en attaque, et ils encaissent finalement un but à la 81e minute, défaite 1-0, ce qui les laisse une nouvelle fois donc en zone de relégation, 13e, alors qu'il ne reste plus que 5 journées de championnat. Et le Gol FC, donc les Chasselois, eux, ils ont flanché hélas à domicile devant la Lanterne Rouge Cholet, c'était au stade Ludovic Joly, donc vendredi soir également. Alors Raspantino, l'inévitable buteur gaulois, avait tout de même réussi à marquer deux fois, même si Cholet avait également inscrit un but avant de retourner au vestiaire donc à la mi-temps. Mais hélas, eh bien, ils ont perdu le fil, parce que d'abord ils sont dépassés par les visiteurs à 6 minutes de la fin. Beltrán, Dieu merci, remet immédiatement les deux équipes à égalité, donc à 5 minutes du terme. Mais hélas, nos Gaulois vont encaisser ce quatrième but fatal au-delà du temps réglementaire, donc et au bout du temps additionnel, défaite 4-3, c'est une très mauvaise affaire, puisque, encore une fois, battu par la Lanterne Rouge, et désormais bien installé en zone de relégation, 15e place. On s'inquiète, évidemment, tu l'as compris Mathieu, beaucoup, pour nos deux équipes de football. En revanche, la bonne... Oui, pardon.
Mais j'allais te demander si c'était, s'il y avait eu du rugby, mais j'ai l'impression que tu es parti pour nous en parler.
Eh bien oui, tout à fait. Et la bonne nouvelle, elle est venue de nos CSVistes, selon une expression utilisée par l'un de nos camarades de la presse écrite. Elle me fait marrer celle-là. Alors, le CSV, Villefranche, lui, a eu la divine bonne idée de nous réserver cette surprise, d'aller gagner à Courbevoie, donc en région parisienne, dimanche après-midi, 17-26, au terme d'une partie bien maîtrisée. Et donc, il se qualifie directement avant la dernière journée décisive. On pensait que ce serait ce week-end. Eh bien non, ils sont déjà qualifiés pour la phase finale de Fédéral 1. Il faut tout de même se rappeler que nos rugbymen n'avaient d'ores et déjà au départ pour ambition qu'un maintien tranquille. Eh bien, ma foi, ils vont même pouvoir espérer à rêver, pourquoi pas, continuer à rêver et poursuivre leur saison en phase finale. En revanche, douche froide pour les autres rugbymen de nos territoires, le RC Belleville en Fédéral 3, l'URC Belleville, qui avait un périlleux déplacement à Bellegarde sur Valserine pour la dernière journée de saison régulière, mais une défaite 31-16, 4 essais encaissés, a non seulement été une mauvaise, effectivement une mauvaise nouvelle, mais conjuguée aux autres résultats de la journée, eh bien hélas, le RCB, qui a été très longtemps parmi les deux premiers de sa poule et pouvait espérer, comme la saison passée, participer à la phase finale, se retrouve éjecté, puisqu'il termine finalement 6e et ne pourront pas aller plus loin cette année. Fin de saison, clap de fin pour le RCB. Voilà pour les stades.
Bon, et alors on continue peut-être dans les salles. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ?
Au forceps, c'est le moins qu'on puisse dire, Beaujolais Basket garde la tête du championnat national 2 pour un match exceptionnellement dans la salle de Fleury face à un rival direct dans le haut du tableau, à ravoir Châles-les-Eaux, les Savoyards. Un match très accroché au coude à coude tout au long de la partie et un Beaujolais Basket pas très inspiré mais qui au final, au forceps donc, réussit son money time 69-63. Il garde la tête de la national 2 à 3 journées de la fin, mais c'est très très sérieux. 3 ex-aequo avec Salon de Provence et le Canet et ça pousse derrière. Tout va se jouer donc dans les derniers ultimes rendez-vous de la saison pour Beaujolais Basket en National 3. La Estarar, je crois, a visiblement lâché l'affaire et ils ont été totalement démobilisés pour chuter largement dans le Jura face à Salins, donc samedi soir, là également le 6 avril. Score final de 30 points d'écart, 95-65. Ils sont 8e dans le ventre mou du tableau. Voilà ce que j'ai retenu du côté des gymnases.
Bon, et est-ce qu'il y a eu du cyclisme ce week-end ? Et est-ce que ça a été un peu plus brillant ?
Il y avait... Absolument, un rendez-vous important pour les coureurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais qui se sont alignés sur le circuit des Ardennes, une course à étapes, une sacrée épreuve, 4 jours, 4 étapes donc, toutes de plus de 150 km et surtout avec un plateau composé de plus de 20 équipes du peloton professionnel de niveau continental. Et nos loups ne sont pas allés pour faire de la figuration parce que la première étape du jeudi 4 avril, dans ces belles routes des Ardennes entre Juniville et Asfeld, hein, des endroits que tu connais bien, eh bien il se trouve que Antoine Rogel, le jeune Canadois, a tiré son épingle du jeu pour se retrouver dans le peloton qui allait se disputer, un petit peloton qui allait se disputer la victoire finale, et il fait 16e, donc c'est plutôt pas mal au sprint. Ensuite, vendredi 5, Théo Thomas, l'un des hommes en forme du VCVB, il était à 2 doigts de la victoire, une victoire qui aurait été vraiment une victoire de prestige entre Auvillers-les-Forges et Ardoncel, là aussi où tu as tes habitudes, j'imagine. Eh bien, il termine 3e, Théo Thomas, à seulement 5 secondes du vainqueur. Il était dans la belle échappée et il a fait une très belle place d'honneur sur le podium. Et puis, samedi, il s'est pas passé grand-chose, mais dimanche 7 avril, eh bien, Théo Thomas s'est encore mêlé à la lutte, à l'arrivée, une arrivée assez massive avec un gros peloton dans les rues de Sedan. Et il fait une très belle 5e place quand même. Donc, bravo à nos loups qui ont marqué leur participation à cette redoutable épreuve. Et même si, bon, au final, au classement général, pour l'anecdote, Antoine Rogel, lui, sera 41e et Théo Thomas, 52e. Enfin, voilà, c'était plutôt pas mal.
Bon, bravo les loups, en tout cas. Et donc ça, c'était pour le week-end qui vient de passer. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir pour nos sportifs locaux? Est-ce que tu as déjà un agenda de prévu?
Ça va être très chargé, alors je vais devoir aller très vite et ne retenir que l'essentiel. Il y en aura pour tous les goûts, mais d'abord on va se préoccuper de nos équipes de football. Vendredi 12 avril, toutes les deux à 19h30, deux matchs déjà capitaux pour essayer de se sauver. À domicile à Armand-Chouffet, le FCVB aura besoin du soutien de son public face à Rouen, qui est l'un des bons élèves du haut du tableau dans les 4-5 premiers. De son côté, le Gol FC se déplace à Niort, deuxième ex-aequo du classement, donc ça va pas être facile. Pour nos deux représentants, mais bon, il faut tout donner maintenant, faut plus calculer. Nos rugbymen du CS Villefranche ont un dernier déplacement à faire, mais juste pour préparer la phase finale, puisqu'ils sont de toute façon d'ores et déjà qualifiés. Ils retourneront en Ile-de-France pour aller jouer dimanche à 15h15, le 14 avril, à Drancy, contre Drancy-Saint-Denis. On jouera, autre rendez-vous très important, au basket, bien entendu, pour Beaujolais Basket, cette fois donc à l'extérieur, déplacement à Sorgues, une équipe un peu bête noire dans le Vaucluse par les saisons passées, surtout la seule à être venue s'imposer à la Varenne cette année. Donc même s'ils sont mal classés, attention, c'est samedi 13-20h pour ce match décisif pour garder la tête. La Estarar sera à domicile à Robert Maga à 20h pour jouer contre Mulhouse-Pfastatt sans enjeu. Notre équipe de handball masculin en National 2, l'Entente Beaujolaise-Villefranche-Lima, se déplace à Saint-Étienne chez le 4e pour essayer de rester dans les 5-6 premiers, il n'y a pas de pression excessive. On jouera au volleyball dimanche après-midi le 14. Les deux équipes, les féminines à 14h à l'escale d'Arnas face à Kingersheim en National 3, je crois que je l'ai déjà dit, et en National 2, les masculins à 16h face à Agde, les deux équipes qui veulent rester dans la première bonne moitié du tableau. J'ai dit qu'il y en aurait pour tous les goûts, c'est surtout le cyclisme. Là encore, qui va nous intéresser, parce qu'il y a samedi 13 avril la deuxième manche de la Coupe de France, qui n'en comptera que 4 cette année pour les équipes de National 1 élite amateur, et donc nos loups. Alors, ils vont disputer une épreuve qui va énormément t'intéresser, Mathieu, la Guinsbar. Elle a été nommée comme ça. Alors, c'est dans le Cotentin, sur les bords de la Manche, à Port-Bail-sur-Mer, un circuit 14 tours pour 174 kilomètres à accomplir à partir de 13h30, et eh bien, mieux on finit classé cette épreuve et plus on marque de points pour son club, donc en l'occurrence pour les loups qui sont quatrième après la première manche. Donc il faut essayer d'aller grappiller là encore des résultats et des points samedi après-midi. Et enfin, pour les spécialistes de la course à pied, pour les trailers, pour être très précis, troisième étape du Trail Tour Beaujolais, et c'est la Beaujolais Runner Trail qui s'annonce, donc à Fleury. Départ dimanche 14 avril, très tôt le matin, bien entendu, comme d'habitude pour les trailers, avec des tas de parcours, 7, 9, 18 et l'épreuve reine, 31 km. Depuis donc, je l'ai dit, la salle des fêtes de Fleury. Dimanche, on va se régaler, il y aura du sport partout.
Parfait, merci beaucoup Eddy pour ce point sportif. Merci beaucoup.
Très bonne semaine, à bientôt Mathieu.
Très bonne semaine.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.